MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission de croissance spirituelle et de maturité en Christ. Je vous l'ai dit tout le jour que ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ qui sont capables d'imiter, de connaître et de vivre la vie de Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. On a déjà commencé depuis hier ce nouveau thème, ce nouveau sujet pour la semaine. Justement, on se pose la question ici, comment devenir un disciple. Après avoir expliqué hier ce que le concept disciple signifie, aujourd'hui nous allons passer le temps à apprendre un peu sur les caractéristiques des disciples. Tenez-vous bien, j'en ai prévu 15, on pourrait en avoir plus, mais j'ai prévu juste 15 pour que nous puissions nous rappeler notre responsabilité d'être disciple. Comment reconnaissons-nous un disciple? Par quoi pouvons-nous reconnaître que cette personne est disciple? Comment celui qui est disciple devrait vivre? Des éléments qui nous montrent que lui, c'est un véritable disciple de Jésus-Christ. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Je vais lire deux textes bibliques qui vont déjà nous permettre de déduire 10 éléments en soi. Puis après quoi, nous aurons les 5 autres éléments qui viendront avec des textes bibliques qui leur sont associés. Les deux textes sont dans les Actes des apôtres. À quoi de plus normal que d'aller chercher dans les Actes des apôtres, là où les disciples se sont développés en poussant loin le message de Christ. Là, ils ont pris la responsabilité de continuer cette foi chrétienne qui nous est arrivée à tous. Le premier texte est dans Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 3. Lisons ensemble. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. J'aime bien ça. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. C'est l'un des récits assez complexes de la Bible. Paul arrive, il est à Corinthe, plutôt, il est à Éphèse. Après avoir fait une visite du côté de Corinthe, il rencontre des disciples. La Bible appelle ces gens des disciples, comme nous, on veut les devenir. Mais il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils sont là, genre, je les imagine en train de se demander, Matthieu, toi, Saint-Esprit, ça te dit quelque chose? Il dit, non. Jeanne, toi, t'as entendu parler du Saint-Esprit le jour du baptême, là? Non, mais si, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait Saint-Esprit. Vous imaginez, disciples, et vous n'avez jamais entendu parler de Saint-Esprit? Et attendez, ils ne sont même pas au 21e siècle, là. C'est encore très récent que Jésus mort, ressuscité, l'effusion de l'Esprit. On parle de Paul, on parle dans la Bible des gens qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit, mais qui sont considérés être disciples de Jésus. Alors, Paul leur pose la question, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est là qu'ils se disent, nous, on a été baptisés du baptême de Jean. Lisons Actes des apôtres, cette fois-ci toujours, chapitre 2, mais du verset 41 jusqu'au verset 47. Chapitre 2, verset 41 au verset 47, c'est juste après l'effusion du Saint-Esprit. On a lui qui est en train de décrire l'ambiance et la vie des apôtres. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, ça c'est le véritable climat des disciples. Parce que disciples, maîtres, ça se vit à la maison, ça se vit, ils rompaient les pains à la maison. J'expliquais ça la dernière fois. Alors, déduisons de ces deux textes quelques caractéristiques qui vous permettent de reconnaître un disciple. J'ai voulu juste rester sur ces textes, mais ces vérités vont se répliquer dans beaucoup d'autres textes bibliques, dans les épîtres, vous pouvez le vérifier. Et même si vous faites un tour vers l'Ancien Testament, vous verrez que c'est plus ou moins la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Comment on reconnaît un disciple? Première caractéristique, numéro un, c'est celui qui a cru en Jésus, croire en Jésus-Christ. C'est la porte d'entrée. Pour devenir disciple, il faut croire en Jésus-Christ. Mais la question de croire en Jésus-Christ, avec les quelques temps que je fais exercer les ministères, je me suis rendu compte que à la fin du moment où je fais un appel au salut, les gens sont un peu confus quand on leur demande de croire au Seigneur Jésus. Surtout quand on leur dit « donnez votre vie à Jésus ». Ils sont un peu perdus. Le langage est tellement imagé qu'ils ne savent pas c'est quoi. Nous sommes dans l'ère de l'intellectualité, de la science, du développement de la technologie. Certains concepts comme ça prêtent à confusion. Mais je veux que vous puissiez savoir que quand la Bible utilise le mot « croire en Jésus-Christ », ça signifie avoir une adhésion intellectuelle de ces faits historiques. C'est-à-dire, vous devez croire en réalité, adhérer intellectuellement au fait que Jésus a vécu, il est né, mort et ressuscité. Vous devez, ça, ce n'est qu'au niveau d'abord juste de l'intellect. Ça, c'est le premier niveau. Et puis après, avoir une conviction personnelle de sa naissance, sa mort et sa résurrection. Maintenant, ce n'est pas seulement que vous croyez que le récit est vrai, l'histoire est réelle, mais dans votre cœur, vous savez que ce qui est dit dans la parole de Dieu sur lui n'est pas un mensonge. Vous êtes convaincu qu'il y a bel et bien eu un individu sur la terre appelé Jésus, mort, né de quelle naissance, vécu de quelle manière, mort de quelle manière et ressuscité. Ça, vous devez adhérer personnellement dans votre cœur que c'est vrai. Ce n'est plus une question à poser. Et puis après, vous devez aussi avoir une décision de conversion permanente à pratiquer son enseignement. C'est tout ça, c'est que ça veut dire aussi croire en Jésus. Maintenant, vous devez arriver à un niveau où vous dites, OK, à partir d'aujourd'hui, je décide que mon ancienne vie était mauvaise. L'exemple qu'a donné ce monsieur sur la terre, c'est comme ça que moi, je dois devoir vivre ma vie. Vous êtes convaincu et pas de retour en arrière. C'est fait une bonne fois pour toutes et pour toujours, que votre vie doit être basée sur l'enseignement de ce fameux Jésus en qui vous avez cru. Et en fin de compte, une expérience personnelle d'une relation quotidienne avec lui en esprit et en vérité. Vous arrivez maintenant à avoir une expérience personnelle. Vous ne savez pas seulement que Jésus existait, vous ne croyez pas seulement à son enseignement, vous n'avez pas seulement décidé d'abandonner votre ancienne vie, mais vous vivez tous les jours en conscience que vous avez une relation avec Jésus. Vous parlez à Jésus, Jésus vous parle. Vous décidez de vivre cette vie-là, c'est ce qu'on appelle croire en Jésus. Un disciple reconnu parce qu'il croit en Jésus. Les premiers disciples, c'était facile, ils devaient croire à un prédicateur qu'ils voyaient. Mais plus il n'était pas là, plus on ne le voyait pas physiquement, plus la définition que je viens de vous donner ici de croire prend tout son sens. Deux, être baptisé d'eau. À l'époque de Jésus, je parle de deuxième caractéristique d'un disciple, à l'époque de Jésus, les gens qui venaient à Jésus avaient déjà un baptême pour la plupart. C'était celui de Jean, parce que Jean a préparé le chemin. Il dit, c'est la voix de celui qui préparait le chemin, en disant, préparez le chemin. Alors, et donc, la plupart des gens étaient baptisés par Jean pour leur repentance. Mais quand Jésus arriva, vous allez lire dans les évangiles, que les disciples de Jésus ont commencé aussi à baptiser des gens. Physiquement, il baptisait d'autres personnes. Mais Jésus lui-même ne baptisa pas. Les disciples, eux, baptisaient d'eau pour devenir aussi disciples de Jésus-Christ. C'est seulement après sa mort et sa résurrection que Jésus donne l'ordre maintenant de commencer à baptiser des gens en son nom. Ce n'est plus le baptême des gens pour la repentance, mais c'est pour le baptême pour dire que vous êtes devenus enfants de Dieu. Oui, vous avez bien entendu le mot baptême. Baptême, il n'y a pas de 36 façons d'expliquer le mot baptême. Baptême veut vraiment dire baptême. C'est réellement un rite d'initiation, un rite de passage où vous accédez à une autre conviction, comme il y en a dans toutes sortes de baptêmes. C'est ça le baptême chrétien. Vous acceptez qu'à partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à l'ancien monde, j'appartiens maintenant à cette nouvelle famille. Je suis mort et par ce geste physique, ressuscité en Christ, je crois que je ne suis plus de l'ancien royaume. J'appartiens maintenant à un autre royaume. C'est vraiment ça le baptême. Vous ne pouvez pas devenir disciple d'un d'une quelconque forme de regroupement spirituel sans passer par un rite de passage. Et ce rite de passage chrétien s'appelle le baptême. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, dit la Bible. Trois, recevoir le Saint-Esprit. Dans les différents textes que nous avons lus au début dans le livre de Luc, vous verrez que Paul leur pose la question, vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent non. Il m'a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent non. Il a vérifié d'abord croire. Et il a vérifié le Saint-Esprit. Ils disent non. Après, il vérifie au milieu. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il place par ce texte-là ces trois choses dont je viens de parler. Un, croire en Jésus. Deux, être baptisé. Et trois, recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, mes amis, est l'une des plus belles expériences que vous puissiez faire dans votre vie. Et surtout dans ces temps de la Bible, le signe le plus patent, c'était le fait de se mettre à parler en langue et à prophétiser. Recevoir le Saint-Esprit, c'est être rempli de la présence de Dieu et de sa capacité à témoigner notre foi et à partager cette nouvelle vie que nous avons. Et désormais, notre homme intérieur est ressuscité. Nous qui étions morts, nous sommes nés de nouveau, nés d'esprit. Un disciple de Jésus a reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on teste les disciples de Jésus de plusieurs manières, mais très peu de gens posent la question de Paul. Avez-vous reçu l'Esprit? Aujourd'hui, on teste les disciples de Jésus en disant, est-ce que vous venez à l'église? Ils peuvent juste être les disciples, les partisans d'une assemblée. Ils aiment bien cet endroit. Ah, je n'étais pas vu au groupe biblique. Ça peut être juste quelqu'un qui vient assister au groupe biblique. La question devait être, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Trois, maintenant quatre, la joie du salut. Le texte que je vous ai lu dans Actes chapitre 2 dépeint un peu la vie des premiers disciples. La Bible dit, ils étaient dans la joie. Quand quelqu'un a été pardonné de ses péchés et que son esprit a été lavé de toute souillure et que son cœur vit sans culpabilité, il est léger et que sa vie de souffrance est derrière lui et qu'il voit la vie maintenant comme Christ lui a donné l'opportunité de la voir, il est régénéré en son homme intérieur, il a une joie inexplicable. Ça ne vient pas dans l'argent, ça ne vient pas dans la drogue, c'est une autre joie qu'il cherche. Il l'a maintenant. La paix en Christ fait une grande joie. Quand vous rencontrez un disciple de Jésus, il est comblé. Il n'est pas en quête d'une chose, il a trouvé. Un disciple de Jésus a la joie du salut. Il est heureux d'être ce qu'il est. Il n'en a pas honte. Il est heureux d'avoir été sauvé. 5. La communion fraternelle. Les textes montrent non seulement ils se réjouissaient, ils partageaient des moments ensemble, non seulement qu'ils étaient dans la joie, mais avec la paix du cœur, mais ils partageaient de temps ensemble. Un disciple de Jésus est attiré par les autres disciples de Jésus. Vous voulez reconnaître quelqu'un qui est vraiment un disciple de Jésus? Il est attiré par ceux de son espèce. Je suis très curieux depuis un certain moment de remarquer qu'il se développe un discipulat très individualiste, où les gens croient que dès qu'il a cru au Seigneur Jésus, il devait se mettre tellement à part et vivre seul. Il n'y a que lui et Dieu, les deux seuls qui savent qu'il existe. Il est le seul, le dernier disciple, les derniers des disciples sur la terre. Et Dieu ne compte que sur lui. Sur lui ne fait pas la mission impossible. Le Seigneur sera perdu. Dieu l'a gardé lui seul dans la vérité. Non, Dieu ne peut pas. Ce n'est pas ça le plan de salut. Le plan de salut, Jésus est venu sauver un aussi grand nombre que possible. Vous appartenez à une famille. C'est pourquoi Jésus, quand il parle d'adorateurs, il ne parle pas au singulier. Il dit les adorateurs que le Père recherche. Un disciple de Jésus est dans un milieu. Jésus aurait pu prendre un seul, mais il les a pris 12. La beauté du discipulat, c'est de vivre dans la communion fraternelle. Vous ne maintiendrez pas votre vie spirituelle en vivant seul. La communion fraternelle est une caractéristique d'un disciple. Vous voulez voir un disciple de Jésus, là où vous le voyez en groupe, il doit être là. 6. Un disciple de Jésus reconnaît parce qu'il est capable de donner généreusement pour l'œuvre de Dieu. Distribuer les biens matériels des disciples aux autres disciples ou aux enseignants, contribuer à la mission, aux besoins des nécessités, ces choses n'en ont jamais été des problèmes dans la première église. Jamais. La première église, c'était des réflexes. C'était des choses qu'ils faisaient passionnément, on en parlera plus tard. Mais depuis un moment, parce qu'il y a eu tellement d'abus, On a tellement de gens voulu profiter de la générosité des chrétiens. Maintenant, la contribution financière ou matérielle, soutenir l'œuvre de Dieu est devenue une chose qu'on doit expliquer beaucoup. Pourtant, c'est un fait naturel d'un disciple. Un disciple se reconnaît par sa capacité à se mettre en peine du besoin de l'assemblée, à se mettre en peine du besoin de la mission, à se mettre en peine du besoin des missionnaires. Paul parle de ceux de Macédoine qui étaient prêts à se couper la main s'il le fallait. Ils se sont donnés eux-mêmes pendant qu'ils étaient encore en train de passer dans la pauvreté. Un disciple donne. Je vous ai lu les textes. Un réflexe comme ça. À la première église, qu'est-ce qu'il y a? Chacun va vendre ce qu'il avait. Il vient déposer au pied des apôtres. Qui les a imposés? Personne. Parce qu'ils sont disciples, la joie de leur salut, un besoin est là, ils ne peuvent pas se taire pendant qu'il y a un besoin. Un disciple de Jésus, celui qui a cru au Seigneur Jésus, n'attend pas les annonces. Quand il passe dans son assemblée, il se rend compte qu'il y a un besoin. Il vient poser des questions à l'église. « Pasteur, de quoi avons-nous besoin? J'ai quelque chose que je peux contribuer avec. » Il vient se rendre compte qu'il y a une télé qui est cassée. Il en a, il contribue. C'est un réflexe naturel de celui qui a été transformé en Christ. Alors, 7. Jouir d'un bon témoignage, le bon témoignage. Un caractéristique d'un disciple de Jésus, c'est qu'il a un bon témoignage. C'est vrai que le monde, mes amis, les styles de vie que nous avons en tant que chrétiens, le monde ne sera pas toujours dans l'unanimité. Le monde ne sera pas en train de nous embrasser et dire que vous êtes les meilleurs du monde. Jésus nous a déjà prévenus. Ce style de vie auquel nous sommes engagés ne sera pas applaudi par tous. Mais la Bible, néanmoins, reconnaît qu'un bon disciple, on doit avoir un bon témoignage de lui. Le monde doit bien témoigner de lui, dire qu'il est différent. La Bible dit, nous avons lu avec vous dans Actes chapitre 2, qu'ils avaient un bon témoignage. Ils jouissaient d'un bon témoignage. Ils mangeaient ensemble, ils étaient là dans leur vie et les gens se disaient, ah, ces gens-là sont bien. Un disciple de Jésus, c'est celui de qui les gens disent des bonnes choses parce qu'il a un bon témoignage. Il vit de manière exemplaire. 8. Il est là pour louer Dieu avec les autres. Le texte dit, ils sont là dans le temple, louant l'Éternel, glorifiant Dieu avec les autres. Un disciple de Jésus, c'est celui qui vit sa dévotion de façon collective avec les autres. Ce n'est pas juste pour qu'on se rencontre pour partager le pain, mais c'est vivre une vie d'adoration personnelle, mais aussi collective. Les disciples de Jésus, vous les retrouvez en train de prier jusqu'à ce qu'il y ait des flammes semblables à des flammes de feu apparaissent sur leur tête. Les disciples de Jésus, vous les trouvez en même le sol, en train d'adorer dans la louange. Un cantique, ils chantent, un autre part, une parole prophétique, ils donnent. Mais c'est un temps de louange pour la gloire de Dieu. Cette passion de glorifier Jésus, ça, c'est un caractéristique d'un disciple de Jésus. 9. Fait d'autres disciples. Le texte dit, Dieu ajouter chaque fois des nouveaux convertis. Parce qu'ils ont vu l'exemple. Un disciple est si exemplaire par sa façon de vivre qu'il attire. Un disciple est contagieux, voilà le meilleur terme. Un disciple est contagieux au point que même sa vie, jusqu'à sa mort, on en parlera un jour, jusqu'à la mort des disciples, cause d'autres disciples. Il est venu un empereur qui a commencé à maltraiter les chrétiens. Et vous savez pourquoi ils ont commencé à arrêter ça? Parce qu'à force de les maltraiter, de les mettre dans les arènes pour les tuer, plus quand on tuait un nombre de chrétiens, le double des gens qui restaient vivants devenaient chrétiens. La beauté de leur mort, ils mouraient dans des cantiques. Ils mouraient en chantant des cantiques nouveaux. Et les gens se disent, ces gens qu'on brûle vont à un meilleur endroit. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils étaient tous comme Étienne. Quand ils mouraient, ils étaient dans une joie. Les gens se disent, je vais devenir chrétien, je vais avoir cette joie qui, même pendant que la flamme est dans ton corps, c'est comme si tu es ailleurs. Un disciple de Jésus fait des disciples par sa vie, par l'évangélisation, par le message. Lui-même, il reproduit ceux de sa race. 10. Un disciple de Jésus est assidu à l'enseignement de la parole. Le texte l'a dit, ils étaient là, grandissant dans l'enseignement des apôtres. Un disciple de Jésus, c'est un amoureux des Écritures. Ce que la Bible dit s'impose à lui. Il ne questionne pas les Écritures. Il n'est pas là pour débattre, questionner dans le mauvais sens, je vais dire ici. Il est là pour savoir que dit mon Père pour que je puisse appliquer ce qu'il m'a dit. Un disciple de Jésus examine la parole. Ce n'est pas un lecteur qui lit juste en diagonale à va-vite. Il prend un temps à aller vraiment en profondeur avec les Écritures. Tu veux savoir quelqu'un qui aime Jésus? Voici, il aime la parole. Parce que Christ est la parole. Alors, 11. À partir d'ici, je vais vous donner de temps en temps des passages bibliques parce que les 10 ici, nous les avons trouvés dans les deux passages que nous venons de présenter. 5 autres caractéristiques d'un disciple. Tenez-vous bien. 1. Ressemble à Jésus. J'aurais dû le dire depuis le début, n'est-ce pas? Un disciple de Jésus lui ressemble. Je l'ai dit hier, il a le paradigme de Jésus. Il lui ressemble pas de visage, mais de style de vie, de façon d'être. Un jour, Pierre est en train même de renoncer, de trahir carrément Jésus. Mais il l'est fait avec un langage qui démontre qu'il était avec Jésus. Il s'est trahi même quand il essaye de dire qu'il n'était pas avec Jésus. La Bible dit dans Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà. Être comme Jésus, c'est ça être un disciple. 12. Renoncer à tout pour Jésus. Un disciple de Jésus, c'est celui qui a renoncé à tout. Renoncer au monde. La Bible parle même de renoncer à sa famille. C'est-à-dire, dans la vie des disciples, il y a toujours la famille, il y a le monde, il y a le travail. C'est trois aspects de notre vie. L'occupation, le monde qui nous entoure à côté de nous, ainsi que la famille. Mais à tout ça, un disciple doit dire, Jésus, pour toi, je veux te suivre, toi et toi seul. Luc chapitre 14, verset 33 le dit. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Quelques versets plus tôt, il dit, celui qui ne renonce pas à sa famille, à son père et sa mère, ne peut pas être mon disciple. Un disciple de Jésus a renoncé. Est-ce que tu as renoncé? Si tu ne renonces pas au monde, si tu ne renonces pas à ce qui t'entoure, si Christ ne devient pas plus important que tout, il y a des gens qui ont même du mal à renoncer juste à un match de foot. Quand il y a un match de foot à la télé, on le sent partagé. Je ne dis pas que je suis contre nos passions, contre des hobbies. Mais il y a des moments où cette question se pose. As-tu renoncé? 13. Maltraité comme son maître. Oh oui, parmi les caractéristiques d'un disciple de Jésus, il existe le fait d'être rejeté par les siens. Jésus nous a promis que le monde nous traitera comme lui. Matthieu chapitre 10, versets 24 à 25. Matthieu 10, 24 à 25. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Jésus qui nous prévenait, si moi, ils m'ont traité de posséder de démons, et vous, vous pensez que vous traiterez de quoi? Si moi, en faisant ces miracles, ils ont dit que j'étais avec Satan, vous pensez qu'ils vous prendront pour normal? Non, ils penseront que votre zèle et votre vie de prière et vos tralala de Jésus, c'est une bigoterie, vous êtes dans un grand dadaïsme. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est du fanatisme et vous faites des trucs bizarres. Ils vous appelleront bizarre pendant que vous êtes la norme. Jésus a prévenu. Un disciple de Jésus n'est pas accueilli par tout le monde avec joie. Un disciple de Jésus doit être prêt à souffrir du fait qu'il a accepté d'être différent. 14. Un disciple de Jésus secourt les faibles. Il va secourir le faible. Il y a des bons textes dans la Bible pour montrer que nous devons secourir le faible. Paul, par exemple, parle, il dit, la partie la plus faible du corps est censée être entourée de plus d'attention. Mais je voulais prendre ce texte parce que c'était littéral. Le geste qu'ont posé les disciples autour de Paul, qui venait de souffrir, on l'a frappé, on l'a tabassé. Comment ils sont venus au secours de lui? Ça m'étonne qu'aujourd'hui, les disciples de Jésus, quand il y a un problème, au milieu d'eux, ils sont le premier à en parler, à mettre YouTube et à faire propager la nouvelle. Pendant qu'un disciple de Jésus court vite pour protéger l'un des membres de la famille s'il est faible. S'il s'est fatigué, s'il a perdu force, s'il a perdu la détermination. Lisons le texte. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. De fois dans l'église, je vois déjà des gens sont abattus par des situations difficiles de leur propre vie. Le diable les a laissés là-bas pensant qu'ils sont morts déjà, il va en finir avec eux. Combien de fois nous, à l'église, nous prenons pas les quelques disciples qui sont déjà presque morts? On va encore les accabler par des calomnies, par des gens qui veulent dire « Ah ouais, moi je savais qu'il allait finir comme ça ». Mais écoutez ce que les disciples ont fait. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Les disciples sont venus l'entourer. Les disciples sont ceux qui viennent entourer celui qui est faible. Mon frère, si tu es disciple et que tu es faible, tu ne trouveras pas de secours ailleurs. Va là où ceux de ta race se rassemblent. Parce que les autres disciples de Jésus sont là pour courir, rattraper ceux qui sont faibles. Vous savez, dans la course, nous, enfants de Dieu, on ne dit pas « Ah, lui, il est tombé, je le laisse derrière. » Non, 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 non. Jésus nous a appris que nous sommes de la race de ceux qui cherchons la brebis, qui abandonnons même les 99 à la recherche d'une brebis. Et enfin, un disciple de Jésus, numéro 15, caractéristique, c'est qu'il est au service de l'Église locale. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 2 à 3. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit rempli du Saint-Esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Il y a un problème à l'Église. La distribution ne se fait pas bien pour les veuves. Certaines veuves se plaignent en disant, oh, il y a partialité ici. On dirait qu'on en donne plus à d'autres qu'à nous. Les apôtres se disent, mais franchement, on ne va pas abandonner la prédication de l'Évangile. Il faut que d'autres personnes s'occupent de ça. Un disciple de Jésus est prêt à donner le coup de main dans l'œuvre de Dieu. Mon frère, vous ne devez pas vous sentir bien, ma sœur. Vous ne devez pas vous sentir heureux de venir à l'église et d'avoir l'habitude d'utiliser ces termes. Je suis membre simple. Membre simple, simple membre, ça signifie quoi? Il y aurait des membres composés? Le mot simple vous paraît être de l'humilité. Mais le mot simple veut dire que vous ne touchez pas à l'œuvre, vous ne participez pas. Ça veut simplement dire que vous êtes loin de l'œuvre. Le mot simple qui se colle à vous en tant que membre, ce n'est pas de l'honneur. Ça veut dire que vous êtes inactif dans le royaume de Dieu. Vous pensez que Jésus n'avait pas besoin de vous quand il est allé vous chercher dans vos péchés. Souvenez-vous de cet homme qui était rempli d'esprit mauvais quand il était guéri, il a dit « Je vais avec toi ». Êtes-vous au service de l'église locale? Il y a des choses à faire. Pasteur, moi, je n'ai pas le temps. Il y a des choses que ceux qui n'ont pas le temps seuls font. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à faire dans l'église locale où vous êtes. Si vous êtes un disciple, retroussez-vous les manches. Travaillez pour l'œuvre de Dieu. Voilà, on a réussi à tenir les défis. J'ai parlé des 15 caractéristiques des disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes justement dans cette série pendant cette semaine pour parler de comment être un disciple. Aujourd'hui, le but, c'était de parler des choses qui distinguent les disciples de Jésus-Christ. J'en ai rappelé que 15, mais c'est pour susciter davantage notre conscience, que nous puissions nous souvenir qui nous sommes censés être et demander surtout au Saint-Esprit de nous aider à maintenir cela dans la bonne voie. Et j'espère vous voir déjà demain, parce que demain, on va continuer ce qu'on a commencé. On va commencer à parler de comment vivre en disciple de Jésus. Ça, c'est vivre comment être un disciple de Jésus. Let's teach! Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.